Avec cela, on va commencer la prédication. C'est la deuxième partie d'une prédication sur le livre d'Apocalypse qui s'appelle... Pardon, je vais aller trop vite. Hop. Il y a un petit décalage. Qui s'appelle Jésus-Christ, Alpha et Oméga. Parce que Jésus, il a écrit l'histoire du monde dès le début et il va aussi l'écrire jusqu'à la fin. Et nous avons vu... Donc là, c'est mon adresse mail, si jamais vous voulez avoir la diapo. Nous avons vu que ce qu'il décrit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament semble à se ressembler à ce qu'il décrit le livre d'Apocalypse, mais dans l'autre sens. Donc, j'essaie d'avancer. Donc, on voit dans l'Ancien Testament la création du monde, jusqu'à Jésus-Christ, avec le Nouveau Testament, et puis le livre d'Apocalypse, qui semble décrire des événements similaires, mais dans l'autre sens. Donc Jésus-Christ, jusqu'à la création des nouvelles terres et d'un nouveau monde. Hop. Je vais voir, la technique peut être un peu avancée, juste un diapo. Oui. Donc on a reculé dans le temps, donc de l'année zéro, si on veut, que les Juifs vivaient en dispersion. Ils n'avaient plus un royaume. Puis ils vivaient sous un royaume. Et avant, il y avait un temps de juge. Et si on va dans l'autre sens, les chrétiens, au début, étaient en dispersion, n'avaient pas un royaume. Puis ils venaient des rois, soi-disant chrétiens, comme Charlemagne, j'ai pris comme exemple. Et à nouveau, on a un temps de juge, ou qui ressemble au temps de juge. Je vais essayer d'avancer. Et la question était, parce que dans le temps de juge, il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on vit dans un nouveau temps de juge, où chacun fait ce qui lui semble bon? Oui. Et donc, avec ça, on va rester aujourd'hui, on ne va pas avancer dans le temps, ni reculer dans le temps, ça va faire la prochaine fois, dans deux semaines. Mais on va rester au début du livre d'Apocalypse et on va voir à quel point est-ce que ce livre est encore actuel. Et les choses qu'ils ont écrites aux sept églises parlent aussi de notre société. Et donc, chapitre numéro 1 nous donne d'abord une réponse à la question « Pourquoi lire ce livre ?» Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc, c'est un livre qui dit qu'il y aura des choses à venir, et ce livre-là va vous aider à comprendre ce qui va arriver. Donc, qui est l'auteur de ce livre? Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Donc l'auteur, on peut dire c'est Jean l'apôtre, mais en fait l'auteur final c'est Jésus-Christ qui parle à travers Jean. Donc ces sept livres se trouvent dans la Turquie actuelle. Il s'agit, donc les sept églises qui sont adressées, il s'agit de l'église à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. À ce moment-là, Jean a reçu une vision sur l'île de Patmos, où il était plus ou moins, on va dire, enfermé, il ne pouvait pas bouger de cette île, à cause, évidemment, de son témoignage pour Jésus-Christ. Et donc, il écrivait cette lettre, et la lettre, elle a circulé après de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les photocopieuses, donc voilà, il a écrit une lettre qui s'est transmise d'une église à l'autre. Et si on lit ce premier chapitre, les premiers quatre chapitres de livre d'Apocalypse, on voit chaque église est adressée, ou presque chaque église, par quelque chose de positif et de négatif. Donc quelque chose qui va bien dans l'Église et quelque chose qui ne va pas bien. Comme exemple, Éphèse, louer est le travail, ton travail est ta persévérance, et qu'ils ne peuvent pas supporter les méchants. Mais, donc négative, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et cela est fait avec une église après l'autre. Évidemment, une question qu'on peut se poser, et je ne vais pas donner une réponse, c'est, et si Jésus écrivait une lettre à l'église de la Bonne Nouvelle? Qu'est-ce qui va bien dans cette église? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Et je crois aussi, là, il faut se poser des questions, parce que sinon, Jésus va nous poser un jour ou l'autre la question. Qu'est-ce qui va bien dans cette église? Et je crois que c'est important aussi de dire, il y a des choses qui vont bien. Pas tout va mal, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas bien, il faut les adresser. À nouveau, cette église très divers. Je ne vais pas vous raconter de chaque église ce qu'il était on va dire, le positif et le négatif, mais je vous encourage à lire ça à la maison. Ça peut aussi être très personnel. Pas juste l'église, mais moi-même, est-ce que j'ai perdu mon premier amour, par exemple? Mais on voit avec ces sept églises, elles sont très diverses. Et il semble aussi, avec cette église-là, que chacun faisait ce qui lui semble bon. Donc, une église qui vivait la prospérité de l'évangile, voilà, on est riche, mais Jésus dit, vous n'êtes pas riche. Et d'autres églises qui sont dans la persécution, etc. Donc, des églises qui vivaient tous à même moment, il y a d'autres interprétations aussi pour ce passage-là, mais qui vivaient tous à ce moment-là sous un empire, l'empire romain, où régnait l'esclavage pour ceux qui n'étaient pas romains, souvent, et pour les romains, donc les gens, on va dire, avec un certain passeport, c'était pain et jeu. Et si on réfléchit aujourd'hui, il y a l'esclavage dans certaines régions dans le monde, peut-être aussi en France, hein. Il y a des gens qui sont sous-payés, mais si on pense à la Chine, Inde, etc., d'où viennent tous nos produits, il y a beaucoup d'esclavage. Et après, il y a aussi ceux, et c'est souvent notre société, qui vit dans le pain, donc dans l'abondance de nourriture et de jeux. Donc, quand je visitais en Israël Césarée, c'était un guide qui n'était pas du tout chrétien, mais elle a dit, on revit une époque romaine. Dans la pensée et dans la violence aussi. Les gens s'amusent en voyant. Oui. 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 Les gens s'amusent avec des jeux vidéo. Et moi, je le fais aussi quand j'avais 16 ans, en tuant les gens sur l'écran, en exerçant la violence. Le sang explose, etc. Et ça donne des frissons. C'est intéressant. Mais donc, par rapport à ça, on est un peu dans le même type de société. Donc, quelque chose, je crois, donc, cette parole-là qui s'adressait à l'époque, il y a 2000 ans, retrouve presque le même type de société, mais évidemment en moderne. Aujourd'hui, on va juste relire le passage, et ça sera que le passage négatif, donc il y a aussi des choses positives, sur l'église à Thyatire. La technique, aujourd'hui, ça bloque un peu. Donc, la prochaine diapo, hop, là. Donc, on va lire ce texte. Mais ce que j'ai contre toi, donc, vous pouvez lire à la maison ce qu'il était positif, là, on lit juste ce qu'il était négatif. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son conduite. Voici que je la jette sur son lit, ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. C'est un texte qui m'a, dans le passé, moins interpellé, je dirais. Donc, il s'agit évidemment d'un faux enseignement à cette église-là. un enseignement qui donne liberté à beaucoup de choses, même à connaître les profondeurs de Satan. Et donc récemment, je suis tombé sur un ministère de quelqu'un qui s'appelle Morgan Priest, qui fait un ministère entre les gens du mouvement gothique, donc les gens qui s'habillent en noir, etc. Et au début, ma femme et moi, on s'est dit « Ah, c'est super que quelqu'un fasse un ministère entre eux ». Et là, j'ai mis un film pour vous montrer un passage qui m'a interpellé. Et on va l'examiner un peu. Donc, si vous pouvez mettre le film numéro 1. J'attends beaucoup de la technique aujourd'hui. J'espère que ça marche. Juste le son qui manque. Mais sinon, je peux aussi vous lire ce qu'il dit plus tard. Donc, si on peut recommencer.
Alors, quelques films de vampires que je vais vous partager. Mon film préféré, c'est Frank. On va parler de films de vampires et de loups-garous. Ah, est-ce qu'un chrétien a le droit de regarder des films de vampires et de loups-garous ?
Voilà. Donc on peut revenir à la diapo. Et on va examiner un peu ce qu'il dit le monsieur. Donc il s'adresse aux gens du mouvement gothique qui se sont convertis et qui lui posent des questions. Et la question était, est-ce qu'on peut continuer quand même à regarder des films de vampires et de loups-garous ? Donc il dit, on va parler de films de vampires et de loups-garous. Est-ce qu'un chrétien a le droit de regarder les films de vampires et de loups-garous, les films d'épouvante ? Mais non, il doit vivre dans un monastère. Il ne doit plus regarder du tout la télé, plus de musique, plus rien. Comme les djihadistes, pareil. Évidemment, il le peut. Tout dépend de ce que ça génère chez lui. Si ça le rend taré au point de vouloir tuer, là, effectivement, c'est pas bon. Alors, j'ai quelques films de vampires qu'il présente. Et donc, tout d'abord, si on regarde ce texte-là, ce qu'il dit, on voit qu'il y a beaucoup d'exagération dedans. Donc le chrétien, il doit vivre dans un monastère, il ne doit plus regarder du tout la télé, plus de musique, plus rien, comme les djihadistes. Aussi, une exagération que je n'ai pas mise, c'est si ça le rend taré au point de vouloir tuer. Donc ceci, très exagéré. Et après, le mensonge est présenté avec aucune argumentation biblique. Évidemment, il le peut. Tout dépend de ce que ça génère chez lui. Aucune argumentation biblique. Donc, un autre texte qui est très très similaire, si on cherche un peu dans la Bible, c'est en Genèse 3, 1, 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc ici, le serpent, il parle avec une exagération. Ah, Dieu ne veut pas que vous mangez des arbres, ce n'est pas bon. Ah, il est trop dur avec vous. La, Ève corrige quand même. Ève dit, voilà, il y a quand même ces quelques arbres où apparemment c'est pas bon. Mais après, il dit, ah non, non, vas-y, ça sera bon, ça va ouvrir tes yeux, etc. Donc on voit quelque chose qui était écrit il y a plusieurs milliers d'années se retrouve dans un langage moderne, aujourd'hui sur YouTube, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Évidemment, il faut être vigilant. Et quelque chose qu'on a appris des Juifs à Béret, c'était qu'ils étaient des gens sages, vigilants. Donc, l'apôtre Paul prêche certaines choses sur Jésus-Christ, etc. Mais une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de faire la chose suivante. Ils reçurent la parole, donc la parole de l'apôtre Paul, avec beaucoup d'empressement. Ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et donc ça, c'est la première responsabilité du chrétien, de ce que dit moi, chaque prédicateur, etc., de rechercher dans les Écritures pour voir est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est des choses mensongères. Et il faut se méfier, toujours quand il y a une argumentation sans la parole de Dieu, là, effectivement, ça devient très personnel, ça devient un avis personnel qui n'est probablement pas fondé sur la parole de Dieu, parce que ça vient de la personne elle-même. Donc, que disent-ils les Écritures par rapport à l'enseignement de Morgan Priest? Si on n'avait pas fait l'erreur de juste écouter et dire oui, il a raison, mais si on cherche un peu dans les Écritures, les choses sont relativement claires. 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Là, on a parlé des films de loups-garous, des vampires. Peut-être pas tout le monde ici regarde ça, mais on peut se poser sur chaque film, chaque type de média qu'on consomme à la maison, la même question. Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'est utile? Ou est-ce que c'est plutôt un instrument du diable pour manipuler, en fait, ou me rendre plus tolérant aux choses où la Bible n'est pas très tolérante? Donc le titre, le chrétien ne peut pas se permettre d'être naïf. Il ne peut pas. Si nous sommes naïfs et on pense, ah voilà, toute chose est bien, voilà, le film est à partir de 16 ans, donc après 16 ans, je peux le regarder. Ou 12 ans, voilà, je peux le regarder. Ou quelqu'un m'a dit, voilà, c'est bon. Donc il faut toujours, on ne peut pas être naïf, on ne peut pas tout accepter. Éphésiens 6, et il faut que nous soyons lucides sur ce qui se passe autour de nous, dans la société, dans les médias. Éphésiens 6, 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Parce que, évidemment, le diable, les démons sont aussi à l'œuvre, et si nous on ignore tout cela, évidemment, on n'a aucune vigilance. 1 Thessaloniciens 5, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc un appel à la vigilance. Je veux être réveillé, je veux voir ce qu'il se passe autour de moi et je veux faire attention. Nous lisons aussi dans 2 Thessaloniciens un verset qui peut... Il y a beaucoup d'interprétations pour ce verset-là et ce n'est pas tout à fait clair parce que l'apôtre Paul ne nous a pas donné des explications exactes. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Donc c'est par la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Paul dit qu'il y a encore quelque chose qui retient encore le mystère de l'iniquité. Et une des interprétations que moi je vois, peut-être c'est des anges qui encore retient les forces démoniaques. Nous savons dans le livre Daniel, il y a des vraies batailles des anges démoniaques et des forces angéliques de Dieu qui se battent, et ça peut qu'à un moment, ils reculent et laissent plus de place, parce que la parole l'a dit. Et d'autres interprétations du Saint-Esprit, mais là, j'avais certains doutes, parce que sinon, plus personne ne peut se convertir plus tard. Mais voilà, ça c'est une grande thématique, qu'est-ce que ça signifie? Mais en tout cas, la Bible nous dit à un moment que quelque chose qui retient le mal va se retirer. Et donc, est-ce que ça s'applique peut-être dans notre temps? On regarde, et moi je regarde beaucoup de livres des petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants, et je découvre des choses où je me suis dit, ah, c'est quand même étonnant d'où ça vient spirituellement. Par exemple, là récemment, j'étais dans une, pour faire une IRM, salle d'attente, les petites sorcières. Crée ton propre labo magique, on ne voit le plus, etc. Ok, les petites sorcières, il faut qu'on regarde un peu dans la Bible ce que c'est. Aurore et le gentil dragon. Regardez ce dragon-là, il est petit, il est vert et il est gentil. Alors on va voir ce qu'il dit la Bible par rapport au dragon. L'apprenti sorcier, c'est très mignon, hein, c'est Mickey. Qu'est-ce qu'il peut faire du mal? C'est que voilà, c'est juste un film dessiné, il n'y a rien de mal. Halloween, voilà, allez, c'est bientôt, on va chercher nos courges, on va couper un peu les petits yeux marrons, etc. Tout le monde s'amuse. Mais effectivement, là, on va voir un peu dans la littérature, qu'est-ce que ça nous dit dans la littérature, dans la Bible, évidemment. D'abord, Ésaïe 25, 20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et je crois, notre société, c'est ça qui se passe en ce moment. Ce qu'il dit, la Bible est mauvais, hop, ça devient bien, et dans l'autre sens. Et on vit dans une confusion si nous ne faisons pas attention. Par rapport au dragon gentil, petit et vert, nous lisons en Apocalypse 12, 3, un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. C'est le Satan. Donc, une illustration ici de Disney, par rapport au dragon, ne correspond pas à l'image biblique. Par rapport à la sorcellerie, Deutéronome 18, 10 à 13, « Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va te déposséder des nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. » On parle des choses qui apparaissent innocentes. Mais le fond, il faut toujours réfléchir, le fond, d'où vient ça spirituellement? Cela n'est pas innocent. Et il faut qu'on se méfie. Parce que la Bible dit clairement que ces choses-là sont en horreur de l'Éternel. Une autre chose qui m'a... Malheureusement, je n'ai pas des photos avec moi et Clara parce que le téléphone portable a coulé. Mais j'étais étonné. Je fais souvent des tours à Jardinland avec Clara quand je la garde parce qu'il y a des animaux, etc. J'étais étonné. J'ai presque compté une trentaine de statues de Bouddha dans tout le magasin pour l'aquarium, en toute taille, etc. Et c'est une vraie mode. Et on a été en recherche d'une maison et on voit des photos, ce qu'ils mettent évidemment les gens dans leur chambre. Et on voit ces statues se trouvent vraiment dans les chambres partout. Donc il y a une recherche de quelque chose de spirituel, mais on se tourne vers les statues en pierre, etc. Donc on peut l'acheter ici à 74,50 €. On peut aussi acheter des rêves attrapeurs pièges indiens, ceci à la mode, on le voit de plus en plus remplir les maisons. Et là, j'ai pris une autre photo d'un autre type d'idole. Voilà, je ne sais pas si c'est une statue de la Vierge Marie, une autre sainte, mais j'ai pris cette photo-là parce qu'il y avait un petit chat à côté. Et je m'intéresse plus au chat. Mais on voit, hier, on a assisté à un baptême dans une église catholique. On voit, c'est un mélange des choses. Un mélange des choses comme le petit bébé, maintenant tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, on va faire une prière d'exorcisme pour que ces péchés partent. Des choses où je n'étais vraiment pas d'accord, je ne trouve pas ça dans la Bible. Et ce qui était intéressant avec ça, on a prié, Agnès et moi, on a prié qu'on peut avoir des discussions avec les parents plus tard. Ce n'était pas les parents. Là, il y a le père qui vient, qui dit « Ah, j'ai deux amis qui veulent quitter l'église catholique. » Je dis « Ah bon ? » ?»« Oui, oui, parlez avec eux, ils veulent rencontrer les protestants. » Je dis « Oui, il n'y a pas de souci. » Donc deux dames, avec tous ces scandales de l'Église catholique récemment, qui se sont posés des questions, qui ont dit, voilà, c'est pas normal ce qui se passe dans l'Église catholique, on cherche une Église. Et donc, on pouvait parler de plein de choses, ce que je trouve dans la Bible, ce qu'il fait l'Église catholique, et où je vois, ça colle pas. Et c'était vraiment deux personnes, et c'était même le monsieur qui nous les a présentées. Et donc, je les ai invités pour le culte ici, pour dire, voilà, venez voir un autre culte. Donc là, une autre thématique, surtout c'est la France. Moi, je viens de l'Allemagne, mais là, en France, c'est vraiment le mot, comme on peut dire, à l'école qu'on entend tout le temps, laïcité. Laïcité veut dire, selon Wikipédia, en droit, la laïcité est le principe de la séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. D'accord, voilà, j'accepte, c'est un État qui n'est pas chrétien, donc voilà, personne ne peut s'infiltrer avec ses croix ou ses foulards, etc. C'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais nous verrons dans le deuxième film que, en fait, ce qu'il dit l'État et ce qu'il fait vraiment ou ce qu'il permet vraiment n'est pas tout à fait en accord. Et donc là, si on peut voir le film numéro 2. Liberté, égalité, fraternité, c'est une école publique. Retour au diapo. On voit que c'était dans une école publique. Et voilà, la professeure de yoga, elle fait des initiations. Évidemment, là, ce n'est pas les grands enseignements, c'est des postures. On peut dire que c'est la gymnastique. Mais je me pose quand même la question, laïcité vraiment? Et je ne veux pas aller plus loin d'interpréter cette vidéo, mais je peux vous dire que moi, personnellement, je trouve... Là, il n'y a pas la laïcité. Il y a des choses qui sont permises parce qu'elles sont à la mode. Et des parents qui disent « Ah, ça calme l'enfant, ça le canalise. » Donc, aussi longtemps qu'on a des effets positifs, hop, ça c'est bon. Mais voilà, c'est un symbole hein, aussi, le yoga. Donc, le signe de la croix, c'est aussi un symbole, mais celui-là est interdit. Donc, on voit, il y a des changements dans notre société. Aussi, je me suis posé la question sur l'origine du yoga. Parce que j'ai même des amis chrétiens qui font du yoga. Et j'avoue, rapidement, j'ai vu que c'est très complexe. C'est pas évident de comprendre les origines du yoga. Mais là, on peut faire le troisième film. C'est en anglais, mais je vais vous expliquer. Ça, c'est le film. On voit, c'est pas évident déjà, donc tout le Veda en haut, c'est comme un grand arbre et une des toutes petites racines en bas, là, c'est le yoga. Donc, je crois que mes amis chrétiens qui font du yoga, je crois qu'ils n'ont jamais fait le travail pour vraiment comprendre d'où ça vient exactement. Mais ce qui est intéressant tout au début de ce film-là, c'est ce qu'il dit. Donc ce n'est pas du tout un chrétien, c'est vraiment le bouddhiste qui affirme ça sur YouTube. Au commencement, il y avait les ténèbres, des ténèbres, et les ténèbres étaient couvertes des ténèbres, puis vient la lumière avec le son « Om ». Et de « Om » vient des Védas, et de Védas vient cet arbre, etc. Si moi, je vois ce récit-là, je pense à la Bible qui dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » On voit quand même que la lumière dans la Bible, elle apparaît après Dieu. Ici, il semble que la lumière crée ce homme. Donc en tout cas, ce n'est pas les mêmes choses. On est d'accord? Et je crois qu'il y a des choses que nous, intellectuellement, on n'est probablement pas capable à tout comprendre, mais une certaine vigilance, une certaine réflexion de dire d'où vient ça vraiment et si je ne peux pas le retracer, peut-être je reste avec mon gymnastique. Parce que qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ceux qui est en haut dans le ciel, de ceux qui est en bas sur la terre, de ceux qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc Dieu est un Dieu jaloux et je crois avec ce Dieu jaloux plein d'amour aussi pour nous, ça sera dommage de dire voilà, je vais tenter cette jalousie de Dieu parce que je sacrifie pour un bien-être, pour un état zen. Et de ça, on parle maintenant rapidement. Donc j'ai pris quelque chose quand même sous la loupe de notre... j'ai encore quelques minutes. T'es zen ou pas? Donc souvent j'entends « t'es zen ?» Oui, non. On peut même acheter des galets zen à le roi Merlin. La Volvic offre des initiations, c'est un jeu où on peut participer. Crois en toi. Crois en toi. Tu as de la force en toi, crois en toi. J'ai fait des distributions avec les Gédéons. Et une fois, on a donné une Bible à un professeur. Elle a dit, je ne crois pas à la Bible, je crois en moi. Donc le frère Gédéon, qui était bien avec la parole, il a dit, vous risquez d'être déçu. Et c'est vrai, on est fragile. Donc tu crois en nous, quelle connerie à la base. Voyage initiatique, dans un magazine que Agnès a un peu pour les choses plutôt alternatives. J'ai vu purification, on ne le voit pas complètement. Purification, science en eau sacrée à Bali. Expérience chamanique au Pérou. Visiter les lieux sacrés en Inde, etc. Nager avec les dauphins libres, ça j'aimerais bien. Mais on voit que toutes ces choses, ça infiltre notre société et tout un peu mélangé. Et donc, zen, non, je ne suis pas zen, mais j'ai la paix grâce au sang de Jésus-Christ. La Bible ne nous promet aucun état zen, au contraire, évidemment pas que, mais aussi les tribulations de toutes sortes. Parce que nous savons, ce qu'il dit la Bible par rapport à la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc la vraie paix chrétienne, elle vient de Jésus-Christ. On ne peut pas chercher un état zen parce qu'il n'existe pas pour un chrétien. L'état où, voilà, on ne fait plus rien, on ne pense plus rien. Cela n'est pas quelque chose de désirable parce que ce n'est pas dans la Bible. Mais si on regarde dans la vie d'un apôtre Paul ou de Jésus, je ne vois pas cet état zen. Je vois un retour vers le Père le soir dans la prière, mais je ne vois pas une méditation dans le nulle part. Une autre chose, et j'avais une révélation sur ça en 2012. J'avais un rêve où je rêvais que des têtes de mort. Je me suis réveillé le matin et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi toutes ces têtes de mort? Et puis, c'était à Genève, je traversais la rue comme d'habitude, etc. Et partout, je voyais des têtes de mort. Les sacs à dos, les t-shirts, là la décoration qu'on peut acheter aux maisons du monde, si vous voulez. En tout cas, tout type de tête de mort. Et donc, j'ai regardé un peu sur Internet pourquoi tout cette mode-là, parce que ça veut dire quelque chose. Et ce que j'ai vu un article, je ne suis pas sûr si c'est vraiment à 100% la vérité, mais ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, un peu plus avant, tout ce qui était sexuel choquait. Maintenant, ça ne choque plus. Et maintenant, c'est la mort, une des dernières choses qui choque encore. Donc, on va enlever aussi ce choc-là. On va s'habituer à la mort. Mais est-ce qu'il est désirable d'avoir des têtes de mort sur nos t-shirts? On peut quand même réfléchir à ce qu'il dit spirituellement la Bible par rapport à la mort, car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc c'est un ennemi de Jésus, c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Et donc, il est indésirable pour un chrétien de porter ces choses sur ses vêtements, etc. Parce que je crois, il y a aussi des choses spirituelles qui se passent, un message qui est transféré. Et il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Le diable ne se cache plus. Récemment, j'étais sur une aire de jeu, il y avait des parents du mouvement gothique, et un des parents avait un grand t-shirt Hellfest. Donc là, fête de l'enfer. Ça m'a un peu interpellé quand même de voir ces parents-là avec le petit enfant. Et je me suis dit, c'est vrai que le diable, il ne se cache plus, il se montre ouvertement, des fois avec des noms anglais. Des fois, on pense aux chansons AC/DC, Highway to Hell, autoroute vers l'enfer, et tout le monde le chante. Highway to Hell. Tout le monde est en célébration, mais c'est quelque chose de très triste, parce qu'on va tout droit à l'enfer, et tout le monde le sait, et il n'y a aucune vigilance par rapport à ça. Que c'est vraiment vrai, c'est une blague en fait. Ah, l'enfer n'existe pas vraiment. On voit sur des poussettes, etc., j'ai vu le signe là. Les gens s'imaginent évidemment le diable avec des cornes. Nous savons que ce n'est pas vrai parce que la Bible nous dit qu'il est un ange de lumière. Mais en tout cas, ce symbole-là, on peut le trouver dans pas mal de lieux, si vous faites un peu attention. Et en Allemagne, ce qui est assez drôle, presque, c'est sur les premières paraboles qui sont apparues, c'est une entreprise qui a mis Satan dessus. Satellitenanlage. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Satan. Donc, j'ai fait un petit texte. Peut-être que je vais trop provoquer. Mais je me suis dit, peut-être ça va réveiller aussi, que j'appelle « Il est possible que bientôt ». Il est possible que bientôt le mot « péché » sera interdit car le péché n'existe pas, et de dire à quelqu'un qu'il est pécheur peut causer des tristesses, dépressions et troubles de personnalité. Il est possible que bientôt il sera interdit de distribuer les Bibles sur la voie publique. Cet été, il y a la loi Blanquer qui est passée, qui dit... Je vais vous rapidement dire la loi, donc, qui change beaucoup le travail des gédéons qui distribuent la Bible dans les rues. Les comportements constitutifs de pression sur les croyances des élèves ou les tentatives d'endoctrinement de ceux qui sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement à leur abord. Donc, abord, ce n'est pas du tout fixé, ça peut être 100 mètres, 200 mètres de l'école et pendant toute activité liée à l'enseignement. Donc, d'un coup, on se voit, on ne peut plus distribuer les Bibles à la proximité parce que les abords d'une école, ils ne disent pas 100 mètres, 500 mètres. Et donc, on ne se trouve plus sous la protection de la police, qui était le cas avant. Il est possible que bientôt, il sera interdit de partager l'évangile au travail. Il est possible que bientôt, les futurs parents seront forcés d'avorter un enfant trisomique car cela coûte trop cher à l'État ou que les parents doivent payer les frais par eux-mêmes. Il est possible que bientôt, le yoga devienne obligatoire à l'école. Il est possible que la Bible est bientôt aussi interdite, ou certains passages, car il s'agit d'un livre avec un contenu homophobe, ce qui n'est plus en accord avec les droits de l'homme. Il est possible que bientôt un chrétien ne peut plus devenir maire, gynécologue, infirmier, professeur ou autre type de profession, car cela impliquera signer une charte qui contiendra des choses contraires à la parole de Dieu. Il est possible que bientôt un système de points sera introduit en Europe, comme cela est déjà le cas dans certaines régions en Chine. Ceux qui sont proches du gouvernement recevront des points pour s'acheter des maisons, voitures, etc. Les autres les perdront. Il est possible que bientôt les chrétiens en Europe seront harcelés, défavorisés. Il est possible que bientôt l'Église sera espionnée et contrôlée. Il est possible que bientôt une telle prédication sera interdite. Et il est possible que Jésus revienne bientôt. Et je vais finir avec un passage, et j'aime bien ça pour les prédications. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement avec ce que j'ai entendu? Vous avez entendu certainement quelques mots-clés, vigilance, d'examiner les choses, de ne pas être naïve. Éphésiens 5, 8 à 17 nous dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que les gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, vous savez ce qu'il est dit? Réveille-toi qui dors. Relève-toi entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je vais conclure avec une prière pour nous, pour qu'on ne soit pas dans la frayeur ou dans l'angoisse, mais qu'on puisse être dans un esprit de discernement par rapport à nos propres vies, la vie de nos enfants. On ne peut pas surprotéger non plus, ce n'est pas possible, mais au moins on peut discuter avec eux que certains symboliques signifient. Et de ne pas jouer avec la jalousie de Dieu. Je crois que ça, c'est important aussi. Plutôt dire, même si ça me fait plaisir ou quelque chose, et je ne vois vraiment pas vraiment le mal dedans, mais ça peut quand même être en conflit avec ce qu'il dit Dieu, de plutôt pas le faire. Seigneur, merci parce que ta parole est claire sur beaucoup de points et parle même dans notre société aujourd'hui sur des choses qui nous environnent, qu'on pense des fois nous-mêmes que certaines choses sont permises. Seigneur, aide-nous, comme l'apôtre Paul dit, d'examiner toutes choses, si c'est vraiment utile, si ça nous encourage, si ça nous fortifie. Et je te prie aussi pour la mère de Prince Héritier, Seigneur, que tu montres aussi à nous comme Église, à nous comme chaque chrétien, Seigneur, comment on peut la soutenir, même après quelques mois, après le choc, Seigneur. Mais elle a certainement encore besoin de confort et on te prie vraiment que tu puisses consoler son cœur. Amen.